RFIMusique.com. RFI, grand reportage.
Mariam El Kurdi.
Il y a 70 ans, jour pour jour, la bataille de Toulon commençait. 6 jours de combat entre les Alliés et les Allemands pour reprendre le contrôle de ce port sur la Méditerranée. Début aussi d'une campagne de plusieurs mois qui mènera les forces alliées, c'est-à-dire français, américains, canadiens, anglais, entre autres à Berlin. Une campagne de l'Est qui participe de la victoire de 1945. Débarquement de Provence, 1944, vétéran de la campagne de l'Est, c'est un grand reportage signé Léa Ticlet.
Nous sommes sortis du village. Toute la nuit, on entendait clac, clac, les parachutistes qui avaient parachuté dans la forêt les Belugues. Et le matin, à la pointe du jour, on a vu un capitaine avec des Américains maquillés. Il nous a demandé le domaine de Clastron et le domaine de Valbourgier.
Il est minuit, passé de quelques minutes, la nuit du 15 août 44, quand les premiers parachutistes arrivent dans la zone méridionale du Var, en Provence. Pour la plupart, ils sont américains, accueillis sur place par les résistants qui offrent leur soutien opérationnel, comme Jean Ramella, aujourd'hui courbé par les années, qui les attend dans un champ près de son village de La Motte.
Nous étions à leur disposition pour ce qu'il fallait faire. Ils ont sorti tous ceux qui étaient à côté de nous. Des petits cartonnets, la moitié de cette surface, où était porté le nom du parachutiste, son matricule, etc. Et puis le point de ralliement, où il devait se rendre. J'avais un groupe de 15 ou 20 ou davantage parachutistes, et en occupant le moins possible, en cheminant le moins possible sur la route, je les conduisais à travers les vignes. Je ne pouvais pas leur dire « suivez les lumières », il n'y en avait pas, c'était encore la nuit. Et alors, on recevait des tirs, bien sûr, de Clastron qui étaient en bordure à droite de ce cheminement.
Dans ces zones rurales, l'avancée est plutôt facile. Les résistants ont déjà pratiquement libéré tous les villages entre Ramatuelle et Fréjus. Et pour cause, les Allemands sont nombreux à se rendre.
Il faut dire que ces hommes-là étaient les Allemands. Étaient des gens qui étaient fatigués par la guerre, bien entendu, usés par les combats, voulaient en finir. Alors, ce n'étaient pas des nazis, c'était des Allemands comme nous étions des Français, à la différence que c'était, ils avaient une hostilité à respecter. Ils ont fonctionné, puisqu'ils allaient jusqu'à appuyer sur la gâchette.
C'est ce que constate aussi Guy Bergon, engagé dans la résistance à 16 ans. Il doit alors réceptionner les soldats qui déposent les armes dès le 15 août.
Le matin du débarquement. Bon, de toute façon, on savait que ça, il allait avoir lieu, ça, on le savait. Mais le matin du débarquement, quand on a commencé à entendre voir passer les avions et entendre les canons péter de l'autre côté, là, de la mer, il y avait le maquis du Val d'Astier. Je savais qu'il était là, je savais qu'il y avait les types qui étaient là, au maquis. Je les connaissais. On ne parlait pas, mais enfin, je les voyais, je les connaissais. Et eux, ils savaient que j'existais, que j'étais là. Et dans moi-même, je dis, bon, ben, je vais les rejoindre, si je ne peux pas faire quelque chose, je fais quelque chose. Et effectivement, vers les 10 heures, on me dit, voilà, vous allez sur la route de la Molle avec un copain. Vous allez sur la route de la Molle, vous allez réceptionner les Allemands qui étaient au château du baron de la Molle. Ils s'étaient rendus, ils se rendaient. Parce que, alors, on était partis avec un copain, les rencontrer à la Molle pour les emmener au maquis du Val d'Acier.
Cogolin, par exemple, est libéré dès le matin du 15 août. C'est le village de Jean-Jacques Gentil, fringant sexagénaire, dont le grand-père a aidé le général Delattre de Tassigny. Il faut alors s'organiser pour reprendre les villes toujours aux mains des Allemands.
Si le 15 août, Cogolin est libéré, et il reste à libérer le Moyen-Var, une partie du Moyen-Var, et il reste à libérer Toulon. Et donc les plans de libération seront construits à Cogolin, qui est la porte méridionale de la libération de la France, parce que du 16 août au 20 août, c'est là qu'on déploie les cartes avec la résistance que Delattre veut rencontrer dès le soir même de son arrivée pour la remercier d'avoir fait les repérages qui ont permis aux forces d'accéder plus rapidement au point qu'il fallait libérer, et en même temps pour demander des guides, pour demander des cartes, pour demander des hommes, pour demander des bêtes aussi, et qui permettraient de frayer un chemin aux troupes. Et c'est donc là, c'est donc à Cogolin que Montsabert et Delattre préparent la libération de Toulon.
Une bataille dont Lucile Vecchiali se souvient très bien. Cette dame pomponnée et élégamment habillée a quitté sa Réunion natale pour devenir infirmière de guerre en 42. C'est son premier champ de bataille. Elle y voit son premier mort à peine débarqué sur la côte française le 23 août.
Nous avons débarqué à la Nartelle, la plage de Sainte-Maxime, très exactement à la plage des éléphants. Et il y avait un petit, une petite côte à monter pour arriver à la route. Et en arrivant à la route, on a regroupé toutes les ambulances. Et en attendant, on a eu des besoins auxquels il fallait répondre. Et j'ai escaladé un petit talus. Je suis tombée dans un champ de vigne. Et là, je suis tombée nez à nez avec le cadavre d'un Allemand, raidi et tout. L'horreur. J'avais bien vu des gens morts, de la famille, des amis, mais un cadavre tout raide et dans des positions, une position de défense, de peur, enfin c'était affreux. Je dois vous dire que l'envie de faire un petit besoin, ça a passé tout de suite. Et on nous a embarqués dans la bataille de Toulon. Et alors on n'a pas eu le temps de réfléchir. Hein. Descendu, hop, en route tout de suite. Et à la bataille de Toulon, on a dû évacuer des prisonniers allemands qui s'étaient rendus. Et pendant que leurs copains nous bombardaient, on évacuait leurs blessés.
Le front de l'Est français n'est pas unitaire. Pendant que Toulon et Marseille luttent encore pour être libérés, les alliés remontent le long du Rhône, dans une région presque déjà libérée. Jean Breton est aujourd'hui un monsieur plié et asséché par le temps. Il fait alors partie des troupes de déminage. Il a suivi la division blindée jusqu'au plateau de Langres, au sud-ouest des Vosges.
C'est-à-dire peut-être que, étant donné que c'était de l'armée française, que les soldats appelaient français, il y avait peut-être des facilités, j'en sais rien. Enfin, ils ont repassé de l'autre côté du Rhône, ils ont remonté. Et ils sont remontés jusqu'où ? À la rencontre de la 2e DB à Langres. Et alors là, à Langres, ils sont arrêtés et ils sont allés vers l'Est, carrément.
Langres, c'est un moment important parce que c'est la jonction, le plateau de Langres, entre l'armée A que dirigeait Delattre, l'armée de libération A, et puis la 2e DB de Leclerc qui avait libéré Paris. Donc cette jonction fait que l'armée B est devenue la première armée.
Alors à ce moment-là, c'était la guerre. Hein, jusqu'à toute cette remontée, c'est fini. Quoi. On nous applaudissait dans les villages, et puis c'est tout. Quoi. Mais alors là, on a commencé à entendre le bruit du canon, le bruit des mitrailleuses.
Les troupes françaises ont alors 3 mois d'avance sur le calendrier dressé par les Américains. Avec leur avancée éclair à travers la France, elles se laissent surprendre par le froid qui tombe dès le mois d'octobre. Les premiers à en souffrir sont les Africains qui prennent part au combat, au point qu'ils sont progressivement redéployés plus au sud, comme le raconte Timoko Konaté, venu du Mali et qui a failli y perdre les pieds.
C'est à partir du mois d'octobre que la neige a commencé à nous décimer. Et c'est à partir de cette même date qu'on a commencé à blanchir les unités. C'est-à-dire les troupes noires, il fallait les évacuer sur Toulon, où il faisait un peu plus beau. Moi qui vous parle, j'ai eu les deux pieds gelés dans le Doubs. Je rampais et quand je suis arrivé à l'hôpital de campagne, le médecin-chef m'a fait 2 piqûres, une ici et une là. Et il m'a dit ceci, « Sergent-chef Timoko, tu as de la chance, hein. Sinon tu serais resté 24 heures de plus au poste, je t'amputais. »
Lucile Vecchiali a tout juste quitté la Réunion. Le froid, elle l'affronte pour la première fois aussi, dans les Vosges, une difficulté qui s'ajoute à celle de manier le volant de son ambulance dans les montagnes neigeuses.
Nous sortions de chez nous où il faisait 35 degrés à l'ombre et on est arrivé à moins 30 degrés au col du Bonhomme dans les Vosges, avec des congères qu'on ne savait pas comment les prendre, avec une pelle et un truc qu'on était obligé de dégager pour passer, enfin bref. Et puis la bataille des Vosges, et puis la bataille de Colmar, alors là, ça, celle-là, superbe. On n'arrêtait pas, ni pas le temps de dormir, pas le temps de manger, pas le temps de rien. On transportait du centre de triage, désolé, mais ça s'appelait comme ça. Les blessés venaient du front au centre de triage, et au centre de triage, nous, on les embarquait, on les emmenait vers les hôpitaux de l'arrière. Et le temps de rien faire. Hein. Rouler, la neige, le froid, le machin. Apaiser les gars derrière, parce que les pauvres, c'était la guerre.
Des Hautes-Alpes où des soldats français postés à la frontière empêchent le retour des Allemands par l'Italie, aux Vosges et Colmar. Les troupes françaises fêtent le nouvel an de 1945, la faim au ventre. Guy Bergon, résistant maintenant engagé dans l'armée régulière, est posté avec la brigade des morts dans les Hautes-Alpes. Il s'accommode des moins 30 degrés qu'il fait tous les matins, bien obligé de s'accommoder aussi de son menu de réveillon.
Nous, ce qu'on a craint surtout, les gens d'ici, c'est le froid. On n'était pas habitué. On était à Aiguille. Là. Au matin, il y avait moins de 32. Ça fait froid. Hein. C'est tout de dur. On prenait la garde dans le clocher de l'église. On était sous la cloche. Dans le clocher, il y a les quatre petites ouvertures de chaque côté pour que le saut des cloches puisse partir. Par ces petites fenêtres, là. Il y avait un froid. Là, on ne savait pas quoi manger, parce que bon... Alors, il y en a un qui dit, si on mangeait, ça me faisait un civet. Ah bon, c'est bien joli faire un civet, mais avec quoi? Alors, ils se sont mis là, ils ont tué deux prochains. Ils ont fait un civet. Et on avait mangé un civet de chat. Moi, je vous prie de croire que le civet de chat, j'avais pas envie de manger. Mais je voyais des autres qui disaient, putain que c'est bon. Alors, je dis, il faut quand même pas déconner. Hein. Si je trouve bon, c'est que... Alors j'ai un peu goûté la sauce. C'est vrai que c'était bon. Oh, bah, après j'ai pris deux ou trois morceaux, aussi comme les autres. Hein. C'était pas tellement la fin. Hein. C'était pas que c'était le jour de l'âne.
À force de combat et stratégie, les troupes françaises finissent par percer le Rhin un jour de mars 1945. Jean Breton a bifurqué avec son bataillon du génie vers la Normandie avant de revenir à toute vitesse, franchir lui aussi le fleuve. Il sourit quand il raconte le rôle qu'il a joué dans cette avancée à l'Est.
Cette pénétration, c'est un peu grâce au génie, je dirais pas grâce à moi, mais enfin... J'avais reçu l'ordre, quand nous étions du côté de Radom, j'avais reçu l'ordre de visiter les Syriens pour leur dire de préparer des cales, parce que, soi-disant, le bataillon, la première DB, même pas uniquement le bataillon du génie, la première DB devait faire mouvement sur la Rochelle, parce qu'il y avait toujours la poche de la Rochelle, les Allemands étaient toujours sur la Rochelle, pour aller là-bas. Et en plus, on m'avait dit, et il faudra dire, de ne pas le dire. Il fallait pas le dire. Alors, à chaque chef, au moins 5 ou 6 séries, comme ça, avec des ordonnées, des papiers, avec les tailles, voilà, tel monde, de telle façon, c'était pour mettre les choses sur des plateformes ferroviaires, les véhicules, pour aller par train vers La Rochelle, quoi. Alors, à chacun, je leur disais, surtout, hein, il faut pas le dire. Et c'est comme ça que les Allemands ont su que la première DB allait sur La Rochelle. Ils ont désarmé là. Le coin, voilà comment on est arrivé les premiers sur le Rhin, parce que c'est le lieutenant Deloisy qui est le premier à toucher le Rhin.
Et une fois le Rhin passé, c'est l'Allemagne qui se présente aux troupes, avec en ligne de mire Berlin.
Voilà, on a fait connaissance avec les autostrades, des machins comme ça qu'on ignorait. En France, totalement. Quoi. Là, maintenant, c'est les autoroutes, mais là, les Allemands avaient déjà des machins en béton.
Nous sommes entrés un peu pas très rassurés, parce que on nous avait dit, oh attention, les Allemands, quand ils ont reculé, ils ont empoisonné l'eau des puits, ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est pas vrai du tout. Mais il y a une chose que j'ai remarquée qui m'a profondément touchée aussi, c'est que Leur ville était autant détruite que les nôtres. Qu'il y ait des vainqueurs ou qu'il y ait des vaincus dans une guerre, de chaque côté, tous les civils souffrent autant.
70 ans plus tard, les souvenirs de ces vétérans sont encore vivaces et les récits précis. Ils racontent une histoire généralement oubliée ou même pas apprise, un sentiment d'oubli ou de désintérêt qui nourrit l'amertume de ces nonagénaires qui vivent pour raconter. La campagne de l'Est, un grand reportage de Léa Ticlette.
On continue en musique comme tous les jours pendant cet été. On vous fait découvrir des artistes. Aujourd'hui, c'est Holly Cook. Il fait partie de la sélection du mois de nos programmateurs. Et on peut le retrouver tout l'été en playlist RFI avec le titre Looking for Real Love, extrait de son dernier album Twice.
Thank you.